Le sourire, donc, ce matin, avec ses ambivalences, le sourire comme objet social, ça montre notre rapport à l'autre. Et c'est le thème de votre dernier livre, David Le Breton, bonjour.
Bonjour.
Sourire, une anthropologie de l'énigmatique, paru chez Métellier. Je rappelle que vous êtes anthropologue, sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Le sourire comme rapport à l'autre, vous ne l'avez pas toujours bien vécu, notamment quand vous étiez petit à l'école. Mais pour quelle raison exactement ?
Ah ben, déjà, à l'époque, il y avait un décalage en termes de ritualité sociale, puisque j'étais un enfant très très turbulent, j'étais souvent repris par les instituteurs, et puis j'avais du mal à croire finalement à la gravité de la situation, alors je les regardais souriants, tranquilles, ce qui évidemment les mettait dans une colère encore plus sombre.
Parce qu'on prenait ça pour de l'insolence ?
On prenait ça, et voilà, là on est, vous voyez, dans la polysémie du sourire.
Dans l'ambiguïté totale.
Dans l'ambiguïté du sourire, c'était perçu comme une insolence, une provocation ultime, et ça m'avait valu effectivement énormément de punitions, de réprimandes.
Parce que c'est le thème de votre livre, hein, ce sourire, il a plusieurs significations, parfois contradictoires même selon les circonstances. On peut même sourire avec la mort.
Oui, les déclinaisons du sourire sont innombrables. Celles qui nous touchent le plus, celles qu'on connaît le plus, c'est le sourire d'accueil, le sourire qui nous touche, cette espèce de don d'un rien, mais sans lequel la vie n'aurait absolument plus aucun sens. Donc on se sent accueilli dans le regard de l'autre, on se sent reconnu, on a l'impression qu'on a sa place dans le monde. Ça, c'est le sourire le plus élémentaire en quelque sorte de nos vies, mais il y a aussi des sourires beaucoup plus pervers. Il y a le sourire des assassins qui, rappelez-vous, les djihadistes qui égorgeaient avec le sourire aux lèvres pour montrer qu'ils n'étaient pas sentimentaux et que c'était des types virils. Le sourire de cette femme à Abu Ghraib qui traînait son prisonnier irakien, etc. Ou Breivik à Oslo qui tuait les uns après les autres, les jeunes, avec le sourire aux lèvres. Mais il y a aussi le sourire de mépris, le sourire d'indifférence, le sourire où on accepte une mauvaise nouvelle mais on ne veut pas donner à l'autre la jouissance de nous voir défaits, donc on sourit.
Et puis le sourire, on va pas parler de politique aujourd'hui, on n'a pas le droit, il y a aussi le sourire dans un face-à-face qui méprise et un sourire de gêne aussi. Oui. Ma question c'est, est-ce qu'on maîtrise le sourire ou est-ce qu'il nous échappe ?
C'est les deux à la fois. Je pense que le sourire est davantage une réflexivité qu'un réflexe, de la même manière, à mon avis, que le rire. Mais parfois, on peut réprimer son sourire, on peut aussi réprimer son rire, parce qu'on sait qu'il serait vraiment très malvenu à ce moment-là et pourrait provoquer des tensions. Et à d'autres moments, on rit avec abondance, ou on sourit également avec abondance, parce qu'on sait que les gens qui sont autour de nous sont heureux de voir notre sourire. Donc il y a un contrôle relatif, je dirais, sur le sourire.
Ce qui est surprenant, c'est que alors c'est peut-être une impression fausse, mais on sourit beaucoup aujourd'hui, en tout cas facilement. On a l'impression que c'était moins le cas avant, vrai ou pas ?
Oh, je ne pense pas qu'on puisse faire des recherches comme ça. Moi, j'aurais plutôt le sentiment contraire.
On souriait plus avant.
En tous les cas, on souriait plus avant, mais avec davantage une jubilation d'être au monde, d'être ensemble, dans un sentiment de connivence, de complicité. Je vois dans le sourire d'aujourd'hui davantage une convention, une mondanité, une obligation. D'ailleurs, c'est...
Un sourire faux, en fait. On sourit beaucoup, mais un peu faussement.
Je ne ferais pas ces jugements de valeur, parce qu'en même temps, on est toujours dans les ritualités sociales, donc elles sont absolument sincères. Mais il y a une obligation... Il y a un humorisme obligatoire dans nos sociétés contemporaines, vous le savez très bien. Faut se marrer de tout, faut toujours être dans l'autodérision, parce que quelqu'un qui se prend au sérieux sera très mal vu. Alors, le sourire qu'on voit si fréquent dans nos sociétés, il a, à mon avis, il a ce double tranchant. Moi, je le vois davantage du côté des mondanités, alors qu'à mon sens, mais ce sont plutôt des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, il était plus franc, plus paisible il y a quelques décennies.
Sur les photographies d'autrefois, les gens ne sourient pas pourtant quand même.
Oui, justement, parce que mais par contre, il faut attendre c'est jusque dans les années 20, jusque dans les années 30, parce que c'est vrai que dans les premiers temps de la photographie, finalement, c'est le modèle du portrait bourgeois qui est de la peinture bourgeoise qui l'emporte. Donc ce sont des hommes ou des femmes qui ont les moyens évidemment et puis qui veulent afficher leur réussite sociale, ce qui implique une certaine forme de gravité, de sérieux. Et il faut, à l'exception de quelques enfants, mais il y a quand même très très peu de photographies où on voit des enfants sourire, mais Darwin Céline en prend l'une dans son fameux livre sur l'expression des émotions. C'est plutôt vers le début du XXe siècle que peu à peu on voit se détendre un petit peu le sourire des uns et des autres. Et puis la firme Kodak, évidemment, qui va jouer un grand rôle. C'est le marketing, finalement. C'est la firme Kodak veut vendre le plus possible d'appareils photo parce qu'elle a un très bon appareil qui n'est pas très cher. Et donc elle doit dédramatiser, finalement, l'importance, la gravité sociale de la photo. Et elle va faire un marketing pour montrer qu'il faut prendre garder des souvenirs, des moments heureux de l'existence.
Et donc Kodak invente, avec le levier du marketing, l'injonction au sourire. Ouais. C'est toujours vrai avec les, à la fois sur les messages électroniques avec les smileys ou encore avec les selfies, c'est-à-dire les auto-photos.
Oui, avant, juste un petit mot quand même sur cette photographie dans les années 20, 30, 40 aux États-Unis. C'est vraiment une convention dans les milieux de classe moyenne ou privilégiés, ce sourire. Mmh. Parce qu'en même temps, des très très grands photographes américains comme Alfred Stieglitz, Lewis Hine, Dorothea Lange, etc. prennent des milliers de photos d'hommes ou de femmes qui n'ont absolument pas l'idée de sourire devant la photographie. Parce que ce sont des hommes, des femmes de milieux populaires qui sont ravagés par la pauvreté, par la misère. Les gamins de Lewis Hine, par exemple, dans les mines, ils ont des visages incroyablement malheureux, tristes.
Et aujourd'hui, et aujourd'hui, les selfies, donc, donnent quelle signification au sourire?
Là, on est dans la narcissisation, on est dans l'hyper-individualisation de nos sociétés contemporaines, une volonté, donc, de montrer qu'on existe, et puis, plus, évidemment, vous avez plus de likes si vous êtes souriant que si vous affichez un sourire maussade ou mélancolique. Voilà, donc, effectivement, ça fait partie, d'ailleurs, de cet humorisme obligatoire que je dénonçais un petit peu tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a une dimension genrée dans le sourire? Est-ce qu'on demande par exemple plus aux femmes, et je pense même aux jeunes femmes, aux petites filles, de sourire plus qu'aux petits garçons?
Absolument, le sourire est éminemment genré. D'ailleurs, il y a une expérience, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui la raconte, vous projetez une photographie d'un gamin de 9 mois, 10 mois qui pleure. Si c'est une petite fille, on va dire elle a du chagrin. Si c'est un petit garçon, on veut dire il est en colère. C'est-à-dire, d'emblée, vous avez une interprétation genrée de l'image, de la photographie. Et on retrouve ça aussi dans les bacs à sable, dans les cours de récréation, dans les crèches, etc.
Et là, on pousse les petites filles parce qu'une petite fille, ça doit sourire.
Ça doit sourire. Voilà, il y a une sorte d'ouverture au monde. Alors, comme si l'homme devait rester méfiant, vigilant, attentif. Et voilà, donc l'éthique du care, par exemple, évidemment, l'éthique du soin ne se conçoit pas sans un sourire d'accueil de l'autre. Alors qu'on voit bien, d'ailleurs, même à l'hôpital, que les médecins, quand ce sont des hommes, sont plutôt sévères, d'un air de dire « je maîtrise, je contrôle ». Là où les infirmières ou les médecins femmes vont être davantage dans l'empathie, dans la compassion.
Et donc, dimension genrée, est-ce qu'il y a une dimension sociale aussi? Est-ce qu'on sourit peu ou moins? Vous le laissiez entendre, je crois, tout à l'heure, en fonction de son statut social, de son niveau social.
Tout dépend de la situation, évidemment, parce qu'on ne peut pas jamais généraliser. Mmh. C'est dans un contexte social. C'est vrai qu'on sourit, en principe, par exemple, un employé convoqué par son patron ne va pas arriver avec le sourire aux lèvres.
Oui, mais même un cadre, là.
Et même un cadre. Non, vous avez raison. Parce que là, la hiérarchie sociale fait qu'on s'autorise le sourire et même le rire, mais dans des contextes où on ne va pas être repris. Finalement, il y a quelque chose de très démocratique aussi dans le rire ou le sourire. C'est un partage élémentaire de les conditions humaines, ce qui implique quand même de se sentir en réciprocité avec les autres.
Et est-ce qu'on sourit de la même façon, quels que soient les continents ?
Non, pas du tout. Ça, c'est évidemment une expérience qu'on fait tous en tant que voyageurs et qui m'avait frappé quand j'avais une vingtaine d'années dans mon premier voyage en Afrique. C'était au Togo, c'était au Bénin. J'avais été émerveillé par le sourire, par exemple, des enfants qui m'accueillaient dans les villages, qui couraient autour de moi avec des sourires lumineux que je n'avais évidemment jamais vus en France. Plus tard, j'ai revu ces sourires, ces myriades de sourires en Inde, au Népal, au Sri Lanka, dans ces pays d'Asie.
Vous parliez du sourire de l'enfant, le sourire du bambin. Est-ce que l'on sait pourquoi l'enfant à 3 mois, 4 mois se met à sourire?
Vous savez, il sourit avant, parce que même déjà dans le ventre de sa mère...
Dans la contemplation de manger, il sourit peut-être.
Non, même déjà dans le ventre de sa mère...
Oui, mais je parlais in vitro.
Oui, ah oui, d'accord. C'est un sourire de réflexion, c'est un sourire de satiété, comme s'il y avait une espèce d'évidence d'être là dans le ventre de sa mère. Et parfois, en revanche, il arrive que des nourrissons sourient à la naissance. l'adolescence. Hein. Rappelez-vous les clichés fameux de Frédéric Le Boyer, de ces années 70-80, quand il y avait une volonté d'une naissance sans violence. Il y avait énormément de gamins qui naissaient avec le sourire. Aujourd'hui, ça a quand même quelque peu disparu du fait de la technicisation à outrance de l'accouchement dans nos hôpitaux.
Alors, on parlait du sourire à la naissance. Il y a aussi comme un sourire sur le visage de certains défunts.
Oui, alors oui, c'est par exemple la fameuse noyée de Paris dont parle d'ailleurs aussi Émile Zola dans Thérèse Raquin, mais qui est cette jeune femme qui avait un sourire lumineux alors qu'elle s'était noyée et dont on a fait un moulage. Et d'ailleurs ce moulage a bouleversé complètement les surréalistes. Il a touché profondément Rilke par exemple, qui en parle dans les cahiers dans ses cahiers parisiens. Voilà, il y a plein d'auteurs qui ont été bouleversés par cette image d'une femme souriante dans la mort. Sinon, c'est pas quand même souvent rare. Tout dépend de la... Le défunt peut avoir un sourire s'il est mort paisiblement. S'il est thanatopracteur aussi, on fait un beau boulot.
David Le Breton, je rappelle le titre de votre ouvrage « Sourire ». Ce qui est intéressant, alors on l'entend beaucoup dans votre interview, c'est-à-dire il y a énormément de références littéraires, cinématographiques dans cet ouvrage qui le rend encore plus agréable à lire. Éric, vous disiez tout à l'heure, voilà, on ne sourit pas de la même façon sur tous les continents. Je reviens un tout petit instant sur ça. Est-ce qu'on sourit de la même façon partout en France? Est-ce qu'il y a des sourires différents en fonction des régions? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer ou pas? Non, ça, c'est trop compliqué.
Moi, je ne me lancerai pas là-dedans, parce que là, c'est de toute façon, que signifie aujourd'hui la notion de région alors que on sait bien qu'en Bretagne ou en Alsace, vous avez des gens qui viennent de partout, toute la France, mais non seulement de la France, mais du monde tout entier. Je pense que ces notions-là ont volé un petit peu en éclat, oui.
Alors, est-ce qu'on peut perdre sa capacité à sourire, David Le Breton ?
Oui, bien sûr. D'abord, il y a un certain nombre de pathologies qui figent le visage. Et puis, on peut perdre, évidemment, le sourire dans la dépression hein, aussi, dans Alzheimer. Bon nombre d'hommes ou de femmes perdent le sourire à ce moment-là. Pas tous, hein, parce que il y a parfois des sourires qui flottent un peu comme celui du chat du Cheshire sur le visage d'hommes ou de femmes qui ne sont plus là, en tous les cas en apparence, alors que d'autres le conservent.
On peut réapprendre à sourire ?
Oui, ça, je pense qu'on peut réapprendre. On peut apprendre déjà. Beaucoup d'expériences l'ont montré. Par exemple, avec des enfants aveugles de naissance, donc qui n'ont pas pu s'identifier aux autres, puisque à défaut de vue, donc ils n'ont pas la capacité de modeler modeler un sourire sur leur visage. Et déjà au début du XXe siècle, un psychologue comme Georges Dumas était convaincu qu'on pouvait apprendre à ces enfants aveugles de naissance à sourire. Et il s'était attaché avec ses mains à modeler sur le visage de ces gamins le sourire. Donc je pense qu'on peut effectivement apprendre à sourire. Et puis de toute façon, quand
donc
on retrouve
le goût
de vivre...
Donc c'est pas naturel en fait, c'est le contexte, c'est la situation et c'est l'éducation qui font que...
Absolument. D'ailleurs, des enfants qui grandissent...
C'est pas un réflexe physique, j'ai envie de dire.
Non, voilà. Pour moi, en aucun cas. Non, c'est vraiment... C'est pas un programme. D'ailleurs, je suis très critique envers les approches naturalistes dans le livre. Pour moi, le sourire est un fait de signification, de valeur, absolument pas un programme. Donc il peut être complètement neutralisé dans des sociétés où on sourit très très peu, où on est toujours un peu maussade. Au contraire, il peut être flamboyant dans une société où l'on sourit énormément parce qu'il y a une confiance dans le monde.
Et sur l'absence de sourire, vous terminez votre livre sur un chapitre sur les greffes de visage. Ne pas pouvoir sourire, c'est une autre forme de handicap social.
Je pense, en effet, parce qu'on s'attend tellement au sourire de l'autre quand on le rencontre, quand on le salue, quand on prend congé de lui. Donc une personne qui en est privée du fait de sa défiguration ou de sa pathologie, en effet, vit un handicap social. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite Jérôme Hamon, qui est l'un des greffés du visage, et qui disait, pour lui, le moment de la renaissance, ce n'était pas le moment de la greffe, c'était un ou deux ans après, quand pour la première fois, il a réussi à sourire. Et c'est un moment bouleversant pour sa famille. Et pour lui.
On va lever une ambiguïté sur le sourire. Le sourire n'est pas subordonné au rire. Le rire et le sourire ont leur propre vie.
Oui, le rire, c'est vraiment le corps. Et puis, c'est la dislocation du corps et du langage.
Ça veut dire quoi, ça ?
Quand on rit, on a le corps, on est plié en deux, on rit à en pisser dans sa culotte, on se marre comme une baleine. On éclate de rire, voilà. C'est-à-dire, il y a cette espèce de flamboiement du corps, de jubilation du corps dans le rire. Le sourire, à l'inverse, c'est la discrétion, la spiritualité, c'est le visage. Et le visage, c'est le haut lieu de notre reconnaissance mutuelle. sociale. C'est une espèce de célébration du visage, le sourire.
Karine, vous allusion à vos références littéraires ou cinématographiques tout au long de ce livre. Alors, il y a Proust et puis il y a aussi Henri Miller pour qui le rire, c'est une porte vers la sérénité.
Oui, Henri Miller était un homme qui était dévoré par la joie de vivre, la sérénité, le bonheur de transmettre. Énormément d'auteurs, effectivement, j'aime énormément citer des écrivains ou des cinéastes, parce que c'est une manière aussi de s'entendre avec les lecteurs, finalement. Si je faisais des enquêtes, enfin j'en ai fait d'ailleurs énormément, évidemment, dans le cours de ma carrière, avec des interviews et autres, mais imaginez que je vous ai interviewé tous les deux, sur à quel moment vous souriez, etc.
Tout
et regardez
temps,
avec un
temps.
Grand sourire, en me disant, mais comment je peux répondre à ce genre de questions, on sourit tout le temps, et puis avec des tonalités tellement différentes, donc j'ai trouvé mille fois plus fort de citer plein de sourires littéraires ou cinématographiques, parce que là on a le contexte et puis on peut entrer vraiment dans l'analyse.
Alors on a vécu ces deux dernières années des moments très différents de tout ce qu'on avait connu, avec ce masque qui nous a caché une partie de notre visage et donc nos lèvres qui nous permettent de sourire. Est-ce que le masque nous a empêché de sourire, parce qu'après tout il nous a surtout empêché de montrer qu'on souriait, ce qui signifie que, est-ce que finalement on sourit parfois un peu pour soi quand même, ou est-ce qu'on ne sourit que pour les autres? Qu'est-ce qu'il a caché en fait, ce masque?
Oui, il y a beaucoup de choses dans votre question, parce qu'on peut sourire tout seul, évidemment, c'est le sourire aux anges.
On peut sourire pour soi.
Le sourire aux anges, on est tout seul, on rumine une bonne nouvelle dans sa tête, on sourit avec devant des passants un peu déconcertés, ou bien les marcheurs, par exemple, arrivent devant une colline merveilleuse et ils sourient dans une forme d'acquiescement, de gratitude, finalement, envers le génie des lieux.
Donc ce n'est pas qu'un acte social, le sourire, c'est pas qu'une chose qu'on affiche pour l'autre.
Oui, on n'affiche pas uniquement pour l'autre, mais vous avez raison, le masque, en revanche, nous a privé du sourire de nos interlocuteurs. Parce qu'on ne peut pas du tout reconnaître un sourire aux yeux, comme on me l'a souvent dit pendant cette période.
On ne peut pas rire avec les yeux,
On ne peut pas sourire avec les yeux, parce que des yeux suspendus dans l'espace ne disent rien. C'est même, à la limite, une des figures du cinéma d'horreur, des yeux, que vous ne voyez que des yeux dans l'obscurité, c'est la peur qui vous gagne.
Non, oui, mais l'œil qui brille, c'est presque un œil qui sourit.
L'œil qui frise, oui, ça n'a rien à voir.
Non, parce que c'est tout un contexte. C'est-à-dire, en fait, on reconnaissait le sourire de nos interlocuteurs par leur voix. Tout simplement. Parce qu'on sourit évidemment dans sa voix. C'est peut-être un paradoxe, mais on sait reconnaître un sourire dans la voix. Mais on était derrière le masque, nul ne pouvait savoir si on bâillait, si on faisait une grimace, si on pensait à autre chose ou quoi.
Un mot sur l'Église. Et pour faire un jeu de mots, je dirais qu'on ne rigole pas avec le rire. Hein. Dans l'Église, c'est une forme de profanation, comme un signe de violence, de raillerie. Mais alors pourquoi l'Église est-elle plus indulgente avec le sourire?
D'abord, il faut quand même nuancer, parce que le rire n'a pas été toujours rejeté par l'Église. D'ailleurs, pensez à François d'Assise, hein, qui promeut l'hilaritas, hein, la jovialité de ses disciples. Je dirais que plutôt, dans la théologie des premiers temps, il y a eu un conflit entre ceux que traduit très bien d'ailleurs Umberto Eco dans le roman de la Rose.
Ah oui, au nom de la Rose.
Voilà. Le Christ n'a jamais été représenté en train de rire.
Non, vous avez absolument raison. Et l'Évangile n'y fait pas référence, mais il ne fait pas plus référence d'ailleurs au sourire.
Oui.
Mais il ne fait pas référence à des milliers d'émotions de la vie courante. Or, si on accepte ce dogme de l'incarnation du Christ, il n'y a pas de raison de penser qu'il n'a jamais souri ou qu'il n'a jamais ri. Il a eu faim, il a pleuré, il a été... etc. Donc, en revanche, vous voyez, c'est parce que l'Église, le rire est du côté du corps que l'Église l'a rejeté, évidemment. Alors que le sourire, plutôt, semble une espèce d'acquiescement à la beauté de la création, etc. C'est le visage. Et là, par contre, l'Église a toujours valorisé le visage, parce que c'est le lieu le plus élevé du corps, vous voyez.
En tout cas, vous êtes resté quelqu'un de très souriant.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Comme quand vous étiez enfant.
On terminera avec votre sourire. David Le Breton, c'est le titre de votre dernier livre. Sourire, une anthropologie de l'énigmatique. C'est paru chez Métellier. Je précise aussi que vous aviez rédigé un livre il y a 4 ans sur le rire à part entière. Merci David Le Breton et bonne journée.
Merci beaucoup.
Il est 9h20.